Radio Okapi.
Une accalmie relative s'est observée toute la semaine sur les lignes de front dans les groupements de Kisigari, Bouéza et Djomba au nord Kivu. Cependant, la population hésite encore de rentrer dans son milieu de peur d'être surpris par une éventuelle attaque. Et puis, plus de 30 000 candidats, dont plus de 13 000 filles, participent depuis hier à la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle dans la province de la Tchopo. Ils sont répartis dans 103 centres. Enfin, exécution du budget exercice 2022 à mi-parcours, les organisations de la société civile reprochent aux acteurs étatiques impliqués dans les dépenses publiques une indiscipline budgétaire. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Jacques Kachwelewa, acteur de la société civile et consultant au CEPAS. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En territoire de Rutshuru, une accalmie relative s'est observée toute la semaine sur la ligne de front dans le groupement de Kisigari, Bouéza et Djomba. D'après les sources locales dans la région, le récent affrontement entre les FARDC et le M23 a été enregistré mercredi près des collines de Kanombe et Ruvumu dans la région de Rumangabo. La population hésite encore de rentrer dans son milieu de peur d'être surpris par une éventuelle attaque. Les FARDC maintiennent toujours leur position vers Tamugenga et Rumangabo. Sur le plan humanitaire, les populations restent en refuge dans différents axes sans assistance considérable jusque-là. Plusieurs sources renseignent en outre que les habitants qui vont chercher à manger dans leurs champs, dans la partie sous contrôle des rebelles du M23, sont contraints par ces derniers de rester dans leur village. Alors, toujours au nord Kivu, un groupe Mai Mai non encore identifié s'est installé depuis les débuts de cette semaine dans la localité de Massingi de la chefferie de Bassouara dans le territoire de Lubero. Aussitôt installée, cette milice a contraint la population à lui construire un campement dans le village. Les acteurs de la société civile dans la zone redoutent des affrontements entre ces groupes et plusieurs autres milices actives dans la même zone. Les explications de Grace Amouzati.
Des sources concordantes rapportent que c'est depuis mardi dernier que plus de 30 hommes armés sont visibles à Massingi dans le groupement Manzia. Leur campement construit par les habitants leur a été remis ce jeudi. Ces hommes armés ont commencé à exiger 1000 francs congolais à chaque citoyen pour leur survie. Ils affirment aux habitants qu'ils viennent tracer une route d'environ 25 km reliant les villages de Massingi à Byambwe. D'où, au-delà des travaux forcés, la population s'attend au paiement des montants forfaitaires pour l'exécution de ces projets. La présence de ces miliciens est également signalée dans les villages de Katanga et Maeba du même groupement, pourtant contrôlés depuis plusieurs mois par une autre milice dénommée UPLC. D'autres mouvements Mai Mai sont signalés dans plusieurs entités des groupements Luongo et Bukenye, toujours dans la chefferie de Bassoa. Les acteurs de la société civile qui déplorent l'absence de l'armée dans la zone redoutent des éventuels accrochages entre ces différentes milices. L'administrateur du territoire de Lubero qui confirme ces informations s'est dit également préoccupé. Toutefois, le colonel Alain Kiwewa dit avoir déjà alerté sa hiérarchie en vue de prendre les dispositions nécessaires quant à ces. Boutembo, Grâce, Amzati, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, une voiture a été incendiée jeudi par des rebelles de Zadef au village de Ndimo sur l'axe Komanda Luna dans le territoire d'Irumu. Selon des sources de sécurité, le véhicule revenait de Komanda et se rendait vers le nord Kivu avec des passagers lorsqu'une dizaine d'hommes armés ont barricadé la route et ont tiré en rafale sur cet engin. Bilan, deux blessés graves dont le chauffeur. L'organisation de défense des droits humains qui fait le monitoring sécuritaire dans cette région indique que l'armée qui est intervenue a capturé un des assaillants. Et puis, regain de la criminalité dans la ville de Lubumbashi. Le commissaire provincial d'intérim de la police instaure l'érection des barrières sur de nombreuses artères de la ville pendant la nuit. Une mesure saluée par la société civile locale, mais qui redoute les tracasseries de la part des éléments de la police. Jean Gandou.
Cette mesure qui est déjà d'application a été annoncée le mercredi dernier par le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga. C'était au cours d'une réunion qu'il a présidée. D'après le major Charles Espérant Obin Luamba, porte-parole de la police dans le Haut-Katanga, au cours de cette rencontre, le commissaire provincial de la police a recommandé ce qui suit.
Au commandant unité et au chef département d'intensifier les patrouilles pédestres et motorisées tout en renforçant les mesures de surveillance de la ville en érigeant des barrières sur toutes les artères pour contrôler les mouvements de suspects à bord des véhicules, et cela à partir de 22h.
La société civile salue l'objectif poursuivi qui est la lutte contre la criminalité urbaine, mais interpelle ceux qui sont commis à cette tâche de ne pas en abuser. Bertin Chose, la société civile du Haut-Katanga.
Nous saluons cette mesure. Conscientiser, c'est là qu'ils vont faire ce travail. Parce que quand on leur donne cette opportunité, certains éléments se mettent maintenant à tracasser la population.
À cette préoccupation, les porte-parole de la police ont les précisions suivantes.
Les commissaires provinciaux attirent l'attention des patrouilleurs que cette opération de fouille des véhicules ne constitue pas un motif de tracasser. D'où une mise en garde très sévère a été lancée à leur endroit de ne pas tracasser la paisible population et que celle-ci doit coopérer et collaborer avec sa police.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pourquoi le sang des Congolais doit continuer à couler lorsque la RDC est déstabilisée? C'est toute la région des Grands Lacs qui l'est. Déclaration de l'ambassadeur Eliane Berthe Mokodopo, membre du Conseil consultatif des femmes pour la région des Grands Lacs, au cours d'une rencontre de la délégation des femmes de la CIRGEL en mission conjointe de plaidoyer de haut niveau en RDC avec les chefs religieux du pays. Le rendez-vous a eu lieu hier jeudi 14 juillet ici à Kinshasa au siège de la MONUSCO du Texafrica. Même Madame Mokodopo a ainsi exprimé la solidarité de toutes les femmes africaines de Grands Lacs au cri des femmes et des enfants congolais. Suivez un extrait de propos de l'ambassadeur centrafricaine Eliane Berthe Mokodopo au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Il y a des femmes du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, République centrafricaine. Toutes ces femmes ont écouté les cris des femmes et des enfants de la RDC. Les femmes africaines de la région des Grands Lacs voudraient dire assez, ça suffit. C'est pour ça que nous sommes là. Kinshasa, c'est la première étape. Et notre mission ne va pas s'arrêter ici. Nous irons également voir les personnalités, les chefs d'État, si on nous le permet, des pays concernés que nous connaissons tous et d'autres pays qui font la médiation. Et pourquoi pas ne pas faire venir d'autres femmes d'ailleurs. Par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi le Mali qui vit la même situation que la RDC. Les femmes de Centrafrique, nous sommes là. Donc c'est de voir ensemble comment porter justement ce message à leur haut destinataire pour leur dire « ça suffit ».
La rencontre avec les leaders religieux congolais avait pour objectif d'inviter ces derniers en tant que serviteurs de Dieu à voir comment ces derniers pouvaient s'impliquer au niveau de leurs églises et mosquées dans la lutte contre les discours de haine pour que les uns et les autres puissent transcender les divergences politiques et autres et promouvoir l'amour du prochain et le vivre ensemble. Première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle de la province de la Tchopo. Le coup d'envoi a été donné hier au lycée technique Mapendano par le ministre provincial des Finances représentant le gouverneur de province. Plus de 30 000 candidats, dont plus de 13 000 filles, y participent dans l'ensemble de la province de la Tchopo. Jacques Moukonkolé.
Ce sont au total 33 770 candidats de la 8e année de l'éducation de base, dont 13 530 filles, qui participent à ce test national d'orientation et de sélection scolaire. Ils sont répartis dans 103 centres sur l'ensemble de la province de la Tchopo. Selon le ministre provincial de Finances, ce test vient renforcer le système éducatif de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Elias Ewengene précise qu'il permet une bonne orientation des élèves en tenant compte des capacités et aptitudes d'un chacun afin de leur permettre d'opérer un choix de filière en tenant compte des critères adéquats. Avant l'ouverture des malles contenant les items, le représentant du gouverneur de province a appelé tous les candidats à la sérénité, et ce, après avoir défini les objectifs poursuivis par ce test.
Stationner la fin du cycle terminal de l'enseignement de base, dégager les profils psychologiques de l'élève, orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts, vers le type d'enseignement organisé aux humanités et ou au cycle court professionnel.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
À Ouvira au sud Kivu, 23 000 écoliers de la zone éducationnelle 2 d'Ouvira et Fizi clôturent ce vendredi les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Au cours de la cérémonie de lancement de ces tests hier à l'Institut Kabunambo de la 8e CEPAC de Mulongwe dans la ville d'Ouvira, le président de l'Association nationale des parents du Congo a salué cette innovation de l'EPST. Ce premier test expérimental permettra d'orienter les enfants dans les différentes options filières aux humanités, après la 8e année du cycle terminal d'éducation des bases. Le président de l'ANAPECO, Ouvira, Patient Sindabagomo, invite les parents à accepter les sorts réservés à leurs enfants par les orienteurs. On l'écoute au micro de Fiston Goma.
J'ai pris part non seulement aux cérémonies du lancement, mais c'est depuis l'initiative de ces tests. C'est une bonne chose. Orienter l'enfant selon ses compétences psychiques, ça permettra à ce que chacun puisse faire ce qu'il a la possibilité psychique de faire. Parce que des fois, les enfants, même se proposaient les choix. Des fois, c'était le pareil. Pourtant, les parents ne savaient presque rien. C'est ce qui a amené à ce qu'on puisse penser à une correction. La correction, aujourd'hui, pour les tenaços, c'est une bonne chose. Nous encourageons, nous espérons qu'avec le temps, ça pourra aider les enfants à ce que chacun puisse faire selon ses compétences et ses aptitudes. Nous demandons aux parents d'accepter les orientations qui seraient faites par les ayants de cette compétence. Que chaque parent comprenne que c'est là qu'ils ont fait ce travail, ont qualité de le faire et qu'ils puissent accompagner leurs enfants dans les options dans lesquelles l'enfant serait orienté.
Autre nouvelle, au sud Kivu, le maire de la ville de Bukavu donne sa version des faits de l'accident qui a causé la mort de 4 personnes hier matin à Bukavu. Selon l'autorité urbaine, c'est l'excès de vitesse qui a conduit à la défense du système de freinage du camion impliqué dans cet accident. Meshak Biloubi en appelle à la responsabilité de tous pour garantir la sécurité routière dans la ville. Il est au micro de Cynthia Bachizi.
L'accident a été causé par un camion de marque Fuso, d'une des associations qui évacue les déchets dans la ville et qui le faisait pour le compte de la commune d'Ibanda, puisque ce camion évacuait les déchets du marché de Nyawera. Marché géré et sous la responsabilité de la commune d'Ibanda. Et cet accident a occasionné mort d'homme. Donc la cause principale, c'était l'excès de vitesse qui a causé une défaillance de freinage. J'ai formulé des recommandations à la population, aux conducteurs, à la PCR. Nous demandons à la population, aux propriétaires de véhicules, aux propriétaires de maisons, d'avoir l'idée de l'assurance. Et nous reconnaissons aussi, nous, nos responsabilités. Si tout le monde joue son rôle dans ce que nous faisons pour que la sécurité de personnes et des biens soit assurée. Le ministre de Transcom venait de signer une instruction sur la réglementation de la circulation dans la ville. Et il appartient à la PCR, la police de circulation routière, de faire respecter le nouveau code de la route.
Et puis à Kalemi, le prix des denrées alimentaires prend de l'ascenseur ces derniers temps. Pour la division de l'économie du Tanganyika, cette situation est consécutive notamment à l'inaccessibilité du lac Tanganyika en cette période à cause des vents qui soufflent et qui provoquent des vagues. Cela perturbe souvent la navigation de bateaux qui alimentent la ville en denrées alimentaires. En outre, il y a l'insécurité qui décourage certains cultivateurs à faire des champs craignant les pygmées. Paul Munanga nous fait le point.
À Kisebwe, le plus important marché de Kalemi, un sac de pommes de terre qui coûtait 120 000 francs congolais se vend actuellement à 160 000 francs congolais. Une mesurette dénommée Quaker de la farine de maïs qui se négociait à 800 ou 1000 francs congolais est passée à 1500 francs. Et un verre de riz qui se vendait à 300 francs est payé actuellement à 400 ou 500 francs. Pour une vendeuse, la rareté des denrées alimentaires est une aubaine pour spéculer sur les prix. D'autres parlent de l'insécurité qui dissuade les cultivateurs de ne pas risquer leur vie en se rendant au champ craignant les pygmées, comme dit cette vendeuse du marché Kisebwe. Au moment de cultiver, les pygmées ne se font pas voir, mais au moment de la récolte, ils apparaissent. Ils chassent les propriétaires des champs et confisquent toute la récolte. L'arachide en cette période a toujours un bon prix, mais cette fois, c'est plus le cas. Selon le chef de division de l'économie nationale du Tanganyika, l'économie dans la ville de Kalemie dépend essentiellement du territoire des Moba et de la Tanzanie. Nkulu Mayanga Bonaventure précise que pendant cette période, les bateaux ont du mal à naviguer sur les lacs Tanganyika à cause des vagues qui sont provoquées par le vent. D'où il est difficile d'alimenter régulièrement les marchés. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le nouvel aéroport international de Saint-Louis a été inauguré. Les travaux effectués par l'entreprise tchèque Transcom Electronic Systems ont duré 2 ans, montant plus de 23 milliards de francs CFA, un peu plus de 35 millions d'euros. La nouvelle infrastructure doit permettre d'accompagner le développement économique de la région, notamment dans la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz.
L'invité.
Les organisations de la société civile qui militent pour la bonne gouvernance, encadrées par le Centre d'études pour l'action sociale, reprochent aux acteurs étatiques impliqués dans les dépenses publiques une indiscipline budgétaire. C'est ce qui ressort du rapport d'analyse à mi-parcours de l'exécution du budget de l'État de l'année 2022. Nous en parlons avec notre invité dans cette édition du journal, Jacques Kaswelewa, acteur de la société civile et consultant au CEPAS. Il est interrogé par Jean-Désiré Kanyama.
Monsieur Jacques Kaswelewa, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi analyser ce budget au mois de mai alors que son exécution va jusqu'en décembre 2022?
L'objectif de l'analyse à fin mai, c'est pour permettre à déceler les incohérences pendant les exécutions des 5 premiers mois et permettre à ce que nous puissions faire des propositions, des recommandations pour que le gouvernement puisse améliorer le reste du temps de l'exécution du budget 2022.
Globalement, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement en rapport avec l'exécution de ce budget?
Ce que nous reprochons au gouvernement, ce n'est pas aujourd'hui. Presque dans toutes nos analyses antérieures, on revient sur ça. On reproche au gouvernement l'indiscipline budgétaire.
Et qu'est-ce que vous insinuez par indiscipline budgétaire?
L'autorité budgétaire fixe les limites des crédits alloués à chaque institution et ministère. Mais dans la pratique, dans l'exécution, nous nous rendons compte qu'il y a des institutions et des ministères qui consomment au-delà des crédits que le Parlement leur a accordés. Ça, c'est l'indiscipline budgétaire. Dédé, nous reprochons au gouvernement qu'au sein même de leur budget crédit leur alloué, il y a des rubriques que nous, société civile, nous considérons que des rubriques fourre-tout, intervention économique, prend les décis dans l'exécution de leur budget. Et cela, ça empiète les autres services de bénéficier des crédits pour faire bien leur travail. On reproche encore au gouvernement le non-respect de la chaîne de la dépense. On ne peut pas engager au-delà des prévisions linéaires. Et ce qui occasionne la liquidation au-delà de ce qui est comme prévision linéaire, et ça engendre à ce que le ministre des Finances ordonnance les dépenses au-delà de ce qui est prévu. Et conséquence, la Banque centrale, qui est caissier de l'État, paye aux institutions au-delà des crédits qui leur étaient alloués pendant la période.
Quelles sont les institutions qui ont excellé dans le dépassement?
Il y a, au niveau des institutions, c'est la présidence, la primature, secrétariat général du gouvernement, et il y a Sénat. Sénat est aussi a excellé pendant la période. Tandis que au niveau des ministères, il y a les ministères, notamment aménagement du territoire, c'est aussi au-delà. Il y a le ministère des relations avec le Parlement. Il y a quelques ministères que vous voyez que le niveau d'exécution est à 80%, mais au-delà, au sein de leur budget, il y a des rubriques qui vont jusqu'à 400%, 600%, au détriment des autres rubriques qui sont importantes, telles que le fonctionnement.
Alors, pour les 6 mois qui restent, qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement et aux institutions de la République?
Ce qu'on recommande aux acteurs impliqués dans l'exécution du budget, notamment les ministères du budget, d'arrêter le déverrouillage de la chaîne de la dépense. Et c'est lui, parce qu'il a le pouvoir de rejeter les liquidations qui ne répondent pas aux normes et aux règles, de faire cesser d'abord le déverrouillage de la chaîne de la dépense. Et au ministère des Finances, d'exécuter les budgets tels que la circulaire instruisant l'exécution du budget les donne. Aussi, nous voulons à ce que les institutions supérieures de contrôle, notamment la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, les inspections des ministères puissent faire leur travail pour arrêter au moins l'hémorragie, pour que la gestion de l'exécution du budget puisse répondre aux normes telles que définies par les lois et les textes réglementaires.
Alors, en tant que société civile, qu'est-ce que vous envisagez pour que l'exécution soit respectée finalement?
Pour nous, il y a des actions à mener pour qu'on puisse respecter au moins nos recommandations. Nous allons utiliser des directives. Il y a la population. Il faut que la population sache qu'est-ce que le gouvernement a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et ça, à travers les tribunes d'expression populaire, nous allons restituer les résultats de cette analyse. Tandis que ceux qui sont les acteurs impliqués au niveau de l'exécution du budget, nous allons continuer les plaidoyers. C'est notre travail de chaque jour. On va continuer jusqu'à ce que les jours où ils vont commencer à exécuter les budgets tels que les règles et les normes internationales et nationales exigent.
Jacques Kaswelewa, merci.
Merci.
Jacques Kaswelewa, acteur de la société civile et consultant au CEPAS, c'était notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretenait avec Jean-Désiré Kanyama. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.